Bon matin. Nous sommes le 27 octobre et c'est la dernière journée de la retraite. Bientôt, vous pourrez être libre, rentrer chez vous. Tu veux, en 3 minutes, expliquer ce truc que j'ai mal expliqué hier, le point bleu, parce que j'ai trouvé que c'était un très bon enseignement, mais je l'ai mal répété.
Bonjour tout le monde, c'est un petit schéma que j'ai essayé de faire pour aider à visualiser ce que a dit un écrivain juif. Il s'appelle Viktor Frankl. Et la phrase qu'il a dit, je n'arrive pas vraiment à être capable de vous redire parce que c'est une longue phrase. Mais grosso modo, c'est que entre les stimuli et les réactions, dans la vie, on a toujours des stimuli. Et notre tendance, notre existence consiste à réagir à des stimuli. Et c'est le fonctionnement naturel de notre organisme. Alors, entre les stimuli et les réactions, il y a un espace. Et c'est là où se trouve notre pouvoir, notre liberté de décider. Et ce petit espace-là, l'autre jour, on a coloré ça en bleu. C'est pour ça que hier, Chenhui a appelé ça le point bleu. Mais vous pouvez colorer ça dans toutes les couleurs que vous aimez. Et cet espace-là, c'est justement, c'est le moment d'arrêt. Ça nous permet de décider comment on va réagir. Premièrement, ça nous permet de prendre connaissance, prendre connexion avec ce qui était en train de se passer, en fait, le stimuli. Le stimuli, ça pourrait être quelque chose de l'extérieur, mais ça pourrait être aussi quelque chose de l'intérieur de nous. Et voilà, on prend la connexion, on prend connaissance de ce qui se passe, et puis on prend connaissance avec nous-mêmes, et on décide comment on va réagir. Et c'est là où se trouve la liberté. Si on arrive à prendre cet espace, on a tout le pouvoir pour dire, je ne me laisse pas emporter par les habitudes, les réactions préétablies, les manières préétablies, je pouvais choisir. Et c'est là où se trouve notre liberté. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.
En lisant rapport des familles, il y a quelque chose qui semble revenir souvent. Où est-ce que Chenhui s'en va? Est-ce qu'il sait comment il s'en va? Où il s'en va? Est-ce qu'il a un plan? Il nous parle de n'importe quoi? Comment? Alors, je vais prendre un peu de temps aujourd'hui pour pouvoir essayer de me rappeler de ce que j'ai bien pu vous raconter. Et vous savez, c'est ça le challenge qu'on a, ou bien, pas un challenge, mais c'est un grand cadeau qu'on a. Okay? On a un grand cadeau parce qu'on est ensemble à pratiquer. Et lorsque je vous parle, j'étais en train de pratiquer et je partage ma pratique. Et je veux également parler à mes amis qui sont avec moi depuis très longtemps. Et je suis très heureux d'avoir des nouveaux amis qui nous arrivent et qui nous permettent de... Donc, c'est à peu près tout ça que je veux faire. Donc, pour résumer, le thème de la retraite, c'était la lumière de la pleine conscience. Et la lumière de la pleine conscience, ça se voit, ça se sent, ça rayonne. Mon nom, c'est Vraie Radiance. Et lorsque... Qu'est-ce que j'essaie de radier ou bien qu'est-ce que mon maître aimerait bien me voir radier? Je suis gêné. Mais c'est cette lumière, la lumière de la pleine conscience. Alors l'éveil, c'est un... Waouh! C'est un eureka, c'est un... Et dans le livre sur les traces de Siddhartha, il y a une belle description de l'éveil du Bouddha. Et hier, la question, c'est quoi un bouddhiste? Un bouddhiste, ce n'est pas quelqu'un qui a pris les 5 entraînements, ni les 14, ni qui a la tête rasée, ni qui a une robe jaune. Rien de ça. Ça peut être, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Je regarde Mère Teresa, et puis c'est un bodhisattva vivant en action. Je regarde Martin Luther King, c'est un autre bodhisattva. Et ce sont des vrais bouddhistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette lumière d'éveil. Quand j'étais à l'emploi de Travaux Publics Canada, j'ai eu la chance, l'honneur, de préparer la venue du pape. Et donc, parce que j'étais là, je pouvais être très près pour pouvoir le voir passer. Et quand il passe, quand on voit ces personnes-là, on comprend ce que c'est que la lumière de la pleine conscience. J'ai aussi eu la chance de recevoir le Dalai Lama quand j'étais membre du Conseil interreligieux de Montréal et qu'on organisait sa première venue ici au Québec, à Montréal, à l'oratoire. Et donc j'étais parmi le comité d'accueil quand le pape était arrivé. Avec Monique, on a eu la chance de participer à des déjeuners causeries. Tu sais, ça se faisait déjà dans mon temps. Mais au Club Saint-Denis, et ce jour-là, il y avait Monseigneur Turcotte, et il était là, assis, à écouter ce qu'on lui partageait sur l'inter-être. Et sa présence émane aussi cette lumière d'éveil. Donc, l'éveil n'est pas réservé aux bouddhistes. Et ce n'est pas tous les bouddhistes qui peuvent s'éveiller. Ils essaient d'eux. Je me sens comme devant un... Avez-vous déjà été dans une entrevue pour une genre panel d'entrevue, puis là... Et donc, comme élève du Bouddha, comme membre de l'ordre de l'inter-être, comme élève de Taittiriya Khan, comme un bouddhiste, c'est vers cela que j'aspire. Et je vois tous ces exemples d'êtres qu'on appelle des grands êtres de Bodhisattva. J'aspire et je pratique afin d'y parvenir. Et pour cela, il y a un millier de chemins. Et on dit que toutes les rivières vont amener à l'océan. Une rivière collecte des petits ruisseaux, etc. Et il y en a une infinité. Mais si on se met dans l'eau, si on suit ce courant, on va arriver à l'océan. Et puis c'est aussi l'enseignement du Sutra du Lotus. Parce que hier, je vous ai parlé des quatre chariots. Vous pouvez suivre Christophe André, vous pouvez écouter... I don't know, ok. Il y en a tellement. Ils disent toutes la même chose. Il y a un chemin, le chemin de la souffrance vers une moindre souffrance, vers la non-souffrance, etc. Et il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent hindou, il y en a qui parlent toutes sortes de langues. Et aussi la faculté ou bien le talent d'un maître, c'est de pouvoir s'adresser à la situation. Et à la circonstance, c'est ça. Donc, l'enseignement que j'ai choisi, la voie que j'ai choisie, ça s'appelle la voie de la pleine conscience. Et c'est l'enseignement de mon maître Thich Nhat Hanh. Et mon maître ne l'a pas inventé. Il a appris de ses maîtres. Et on peut retracer par notre histoire... comment nous sommes connectés au Bouddha. Ce matin, à la transmission, on a mentionné qu'on faisait partie de la 43e génération de la lignée Lamte. On est la première génération de Ohai. Alors c'est une branche, Ohai c'est une branche de cette lignée. Et hier, la question c'était, qu'est-ce qui fait une veste brune? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Un OI, ça pratique les 5 entraînements à la pleine conscience. Et les 5 entraînements à la pleine conscience, comme on l'a mentionné durant la transmission, c'est la voie des bodhisattvas. La voie des bodhisattvas, encore là, je me répète, c'est-à-dire la voie qui mène à l'éveil. Et aujourd'hui, et durant la retraite, on a parlé de la pleine conscience, c'est ça? On a parlé, on a reparlé, on a répété. Et on a dit que la pleine conscience que nous pratiquons ici veut dire, ou bien la définition de la pleine conscience que nous pratiquons, c'est notre capacité innée. Tout le monde l'a. Ça, c'est un autre enseignement du Sutra du Lotus. Tout le monde l'a. Cette capacité innée, nous sommes nés avec, on l'a à l'intérieur de nous. De pouvoir être présent. Ce point bleu. Il est toujours là. La capacité innée que nous avons d'être toujours présent avec ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est comme un courant, c'est comme un film, c'est comme un... Ça coule. Et ce matin, lorsque nous avons récité le cœur de la Prajna Paramita, le Bodhisattva Avalokiteshvara, c'était une autre question hier, est assis sur la berge et il regarde le courant passer. Et le courant qui passe, c'est le courant des 5 skandhas. Et là, il voit passer. Et parmi ces skandhas, il y a ce que Tofu vient de mentionner comme un stimuli. Alors, les stimuli sont sous forme de sensations, d'idées, d'impressions, etc. Et ça passe. Et dépendamment de comment nous avons mené notre vie, nous sommes habitués ou nous avons développé des patterns, des chemins. Et nous réagissons. Et merci Tofu de dire que c'est bon d'avoir un espace parce que mes enfants, ils me disent que je suis trop vieux, que je suis trop lent. Come on! Parce que je ne réagis pas assez vite. Non, quand ils me... Ou bien ils me louent, ou bien ils me... Okay. Non, c'est pas ça le mot non plus. Anyway, pas grave. Alors là, je pourrais avoir une excuse. Je vais leur dire, tu sais, ça c'est... Yes, merci de l'avoir remarqué, ça fait 30 ans que je pratique pour l'être. Alors. Donc la pleine conscience, c'est la pratique de l'arrêt. La pratique de l'arrêt pour ne pas se laisser emporter dans les chemins qui sont... Les chemins usés. Parce qu'on passe... Vous savez, lorsqu'on passe toujours dans le même chemin... Ça fait des creux, ça fait des... Et puis là, c'est... Tu rentres, puis t'as pas le choix. S'arrêter. La pleine conscience, c'est savoir pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, pourquoi nous sommes en train de le faire, c'est quoi les causes, c'est quoi la position actuelle et vers quoi ça nous amène. C'est ça. Alors, ça prend un très grand espace pour pouvoir voir tout ça. Oh, il y a un stimuli. Oh, je suis à veille de réagir de cette façon. Ah, je sais pourquoi je vais réagir de cette façon, mais je sais aussi que ça va m'amener là où je ne veux plus. Il arrête. Et tu sais, je me souviens qu'il y a un chemin beaucoup plus plaisant. Allons-y. On le fait une fois. Et on vient de découvrir quelque chose de merveilleux. Qu'on a cette capacité de pouvoir nous arrêter. Et cette capacité, c'est comme n'importe quoi. Elle est là, mais nous devons en faire une habitude. Nous devons nous exercer. Et de la même façon que mon ami fait des push-ups pour pouvoir se maintenir en forme, alors chaque fois qu'on se voit aller là, on pratique nos push-ups et puis... Mais là, je parle, puis je ne le fais pas. Non, j'ai plus d'énergie. Oui, il va falloir que je m'y mette. Mais j'ai besoin d'amis de pratique. Là, vous allez le faire? Non, j'ai demandé à Michel, puisque tu fais toutes ces belles choses-là, est-ce que tu voudrais le faire au centre? Ok, lorsque je vais être de retour au Québec, je vais me mettre au Putla. Et vous voyez comment c'est facile pour moi de le dire. Et comment tous ceux qui ont essayé ont trouvé que ce n'était pas si facile que ça. Alors la base, la pratique, c'est l'arrêt. Hier, on a parlé de colère. C'est qui n'a pas de colère? Et la pratique, c'est de pouvoir reconnaître que c'est pour essayer de ne pas rentrer dans ce. Je sais aussi comment ça peut être difficile. Et je sais aussi que des fois, il faut laisser aller. Et ça m'arrive aussi. Et lorsque ça m'arrive, j'en subis les conséquences. Vous voyez, si j'avais 6 pieds, 200, je pourrais. Mais là, Et quand j'étais plus jeune, j'ai reçu beaucoup de baffes. Et quand j'étais un peu plus vieux, ça m'a joué beaucoup de tours aussi. Alors hier, lorsque j'ai entendu aussi les réflexions des professionnels de psychologie, Madame et Diane, le bouddhisme et les enseignements du Bouddha et les pratiques que nous faisons ici sont une des nombreuses façons de dealer avec des choses. Et puis même si on regarde les enseignements du Bouddha, il y a encore là tout un menu, l'intelligence. Là, c'est de choisir le bon remède et la bonne thérapie. Le Bouddha était reconnu comme un médecin qui pouvait guérir les maux du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il détient ou bien qu'il a pu nous enseigner. À chaque fois, à chaque situation, il avait une solution qu'il proposait. Et à chaque fois, ça faisait un enseignement. Ça faisait... Et quelqu'un a dit qu'il en avait donné 84 000 façons. Alors c'est comme dans une pharmacie, on vient là, il y a plein de médicaments, il y a plein de... Mais c'est celui qui sait prendre quel médicament pour quelle maladie. C'est celui qui peut diagnostiquer le bon, trouver le bon. Alors j'ai beaucoup de respect pour toutes les sciences, etc. Et une chance que vous êtes là, une chance qu'on a des médecins, parce que je suis encore debout devant vous, parce que on a un très bon système de santé, autant préventif que curatif, etc. Et c'est pour ça que je peux encore pouvoir être debout pour vous parler. Si j'étais né il y a 100 ans, je serais mort depuis 10 ans déjà. Parce que toutes mes ancêtres, vous savez, c'est ça qui est intéressant au Vietnam. Là, je vais là, et puis là, je rentre dans les tombes, puis je vois les tombeaux. Puis, mes ancêtres sont morts à 45 ans, 53 ans, 52 ans. Et là, j'ai dit, non, j'en ai juste un peu plus, mais pas beaucoup. Mais j'ai survécu, et c'est grâce à la science, à la médecine, etc. Donc, yes, c'est super. Mais ne pas prendre ça comme une religion non plus. La psychothérapie, c'est une aide, une thérapie, mais c'est juste ça. Et ce n'est pas une religion. Et les techniques, toujours mon expérience avec les forces canadiennes. Vous savez, non seulement ils rentrent au pays sans leurs pieds, mais ils rentrent un peu dérangés. Et ça s'appelle le PTSD. Donc on en ramassait à l'appel. J'étais là lorsqu'ils ont commencé à implanter ce qu'ils appellent les soins de santé mentale. J'ai vu les techniques qu'ils rentraient. Alors, il y avait du ACT, du DBT, du whatever. Okay. Mais pendant mon court séjour, il y a eu 2-3 sortes de thérapies différentes qui sont rentrées. Et chaque professionnel rentrait avec « c'est ça qu'on doit faire ». Et puis l'autre « non, c'est ça que tu dois faire ». Non, le tien vaut rien. Alors, je m'excuse, c'était une parenthèse. Mais ne jamais croire que ce qu'on détient ou bien ce qu'on a, c'est la réalité. Ou bien c'est la vérité ultime. Et c'est pour ça que les vestes brunes, c'est quoi le premier entraînement? C'est de continuellement apprendre toute sa vie et ne pas prendre ce qu'on sait déjà comme la réalité. Alors tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce que je crois aujourd'hui. Et je sais que demain, j'aurai une autre perception et j'espère que ma vision, ma compréhension va continuer d'évoluer. Et c'est cela qui est important. J'ai parlé avec nos feux plutôt. C'est quoi les signes? Pourquoi? Etc. Et puis là, je lui dis, tu sais, les 5 entraînements, ou bien les, c'est comme l'étoile du Nord. Jamais personne ne pourra atteindre cette étoile. Et puis le jour où tu pourras l'atteindre, elle sera déjà éteinte. Elle ne sera même plus là. Mais en attendant, elle est là et elle nous permet de pouvoir garder le cap et ne pas se perdre. Alors donc, c'est juste une direction dans laquelle on s'engage. Et lorsqu'on reçoit les 5 entraînements à la pleine conscience, on a un guide. Alors oui, il y a une étoile, mais comment la regarder? Comment être dedans? Alors comment être dedans? C'est avec la récitation mensuelle qui vous est conseillé. Alors ce matin, durant la transmission, on nous a demandé de réciter les entraînements à la pleine conscience au moins une fois par mois. Ça, c'est ce qui est écrit. Ce que je suggère, c'est de les lire une fois par jour le matin. Tu commences par le premier le lundi, le deuxième le mardi, le troisième le mercredi, le quatrième jeudi, cinquième, vendredi. Samedi, t'es off. Dimanche, tu viens à la journée de pleine conscience. À chaque fois qu'on lit ou bien qu'on relit, notre compréhension change. Notre compréhension s'améliore. On va mieux comprendre. Et j'utilise le mot « comprendre ». Comprendre, ça veut dire être un avec. On devient un avec la chose. C'est ça la compréhension. Ce n'est pas juste lire et puis, ah, ok. Non, c'est d'en faire, de le faire nôtre. Et de la seule façon de le faire, c'est de le répéter et de le répéter et de le répéter. Et ce n'est pas juste se souvenir des mots, mais pénétrer dans le sens de l'enseignement. Et les 5 entraînements à la pleine conscience que vous avez reçus ce matin, c'est un enseignement original du Bouddha, mais amélioré. C'est quoi la formule de la lessive? New, improved, whatever. Mais c'est toute la communauté du village des Érables, non, du village des Pruniers, avec tous leurs élèves, tous ceux qui ont reçu les 5 entraînements, tous les dharmacharyas du monde ont demandé à leurs élèves, comment vous trouvez? Et là, ils ont trouvé, ok, on pourrait ajouter ci, on pourrait ajouter ça, on pourrait. Et c'est devenu, alors c'est une collection de toutes les expériences et insights des élèves, des étudiants de Thaï. Et donc, on y retrouve toutes les expériences heureuses et malheureuses de tous les pratiquants qui l'ont pratiqué. Et Thaï, non seulement a autorisé ces exercices, mais il a encouragé, il a demandé qu'ils soient revisés à toutes les 5 ans. Mais il n'a pas de bons élèves qui l'écoutent. Et je ne sais pas pourquoi, il pratique, donc il n'est pas trop impatient, mais je sais qu'il attend. La dernière fois que ça a été revisé, ça doit faire 15 ans. N'est-ce pas? Donc on a manqué notre travail. On n'est pas très bon. Mais tout ça pour vous dire que les 5 entraînements, c'est quelque chose qui est vivant et qui doit s'adapter à notre situation, à notre environnement, etc. Alors, si vous les avez reçus, quand vous les avez reçus, c'est sûr que ça ne peut pas tout correspondre à vos besoins. Et ce n'est pas grave. Vous l'apprenez et vous recherchez ce qu'il y a là-dedans pour vous. Et la façon de le pratiquer, lorsque vous l'avez lu le matin, c'est que ça vous accompagne pendant la journée. Et puis là, vous pourrez voir qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie et dans le monde et comment ça correspond à l'entraînement que vous avez lu ce matin-là. Et si, par exemple, ce matin, nous avons lu le premier entraînement, respect de la vie, et que nous voyons une nouvelle, comme la nouvelle des 39 morts qu'ils ont découverts dans un camion réfrigéré à Londres. Vous comprenez la souffrance. Conscient de la souffrance causée par la destruction de la vie. 29 personnes mortes dans un camion réfrigéré. Et puis là, vous regardez ça, puis vous sentez la souffrance. Une jeune fille qui appelle ses parents de son cellulaire, puis qui dit « Je suis en train d'étouffer, je ne peux pas respirer. » C'était son dernier appel avant que son cellulaire s'arrête. Et il n'a plus été remis en marche depuis ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle était dans ce camion? Et comment est-ce qu'on peut être lorsqu'on ne peut plus respirer, lorsqu'on suffoque et lorsqu'on en meurt? Conscient de la souffrance causée par la destruction de la vie. Et nous regardons la souffrance. Nous en faisons la nôtre. Et nous continuons. Notre pratique, j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire et je suis conscient de la souffrance dans le monde et en moi, présentement. J'expire et je souris. Je souris parce que j'ai encore la chance de pouvoir respirer. Et je me souviens de cet enseignement. Respire. Tu es vivante. Cette jeune fille qui a été au téléphone ne pouvait plus respirer. Elle a appelé sa mère. Je suis en train de suffoquer. Je ne peux plus respirer. Donc, lorsque vous allez respirer, et vous vous souviendrez de cette phrase, respire, tu es vivante. Vous venez de pratiquer le miracle de la pleine conscience. Être là avec ce qui est en train de se passer dans l'instant, en nous et autour de nous. Je peux respirer, je suis vivante, waouh. Je peux respirer, je suis encore vivante, mais il y en a d'autres qui ne le peuvent plus. Et pourquoi ils ne le peuvent plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai vécu ma vie afin que ces choses-là puisse encore arriver. Ce camion, c'était un camion d'esclaves. Pourquoi? Comment? Et c'est cela la voie du Bodhisattva Et c'est la voie de l'éveil. Et comment est-ce qu'on peut le pratiquer? Avec l'arrêt. Je m'arrête et je sais ce qui est en train de se passer en moi et autour de moi. Je suis encore vivante et je peux encore être là et j'apprécie toutes les grâces qui me sont données pour que je puisse encore respirer et marcher. Et je marche pour ceux qui ne peuvent plus marcher parce qu'ils ont laissé leurs pieds en Afghanistan. Et je respire pour ceux qui ont suffoqué dans ces camions en essayant de trouver un meilleur avenir. Donc, nous avons parlé des 5 entraînements à la pleine conscience. Nous avons transmis, reçu et nous avons fait le souhait, le vœu de les recevoir, de les l'étudier et de les pratiquer. Et lorsque nous pratiquons les 5 entraînements à la pleine conscience, nous pratiquons les 4 nobles vérités. Et dans les 4 nobles vérités, nous pratiquons les 8 chemins. Le chemin octuple ou le chemin des 8 quelque chose. Et dans le chemin des 8 quelque chose, ça commence par right view, la vision juste. Et la vision juste, ça consiste à regarder, à nous regarder, à nous voir. C'est-à-dire pratiquer le deuxième facteur, investigation discriminante. Se regarder, ou bien utiliser chaque stimulé et réaction pour apprendre ce qu'on est. Apprendre ce qu'on est pour pouvoir réaliser ou bien voir que ce que nous sommes aujourd'hui est le produit de tout ce qu'il y a, de tout ce qui nous a amené à ce jour. Et nous regardons notre corps, je fais un peu de... mes tests m'indiquent que je dois suivre un régime alimentaire. Et je regarde le régime et c'est tout ce que j'ai aimé prendre dans ma vie que je dois maintenant arrêter. Alors vous voyez, c'est vraiment wow. Tu aimes ça, tu manges, ok, c'est ça qui va arriver. Donc alors là, il faut changer. Et donc ça, c'est les aliments comestibles. Et de la même façon, l'impression sensorielle, la volition et la conscience. Et la conscience, c'est quelque chose qui marche continuellement. Et on est toujours en train de s'alimenter. Et ce qui est merveilleux en nous, c'est qu'on a une mémoire, non seulement des choses dont on est conscient, mais des choses dont on n'est pas conscient. Et ça se ramasse tout dans notre conscience de tréfonds. Il n'y a rien que nous pouvons, qui rentre dans nos yeux, qui rentre dans nos oreilles, qu'on pense et qui n'est pas enregistré quelque part. Même si on n'est pas conscient, ça rentre là et ça reste là. Et ça fait des trucs ensemble. Et c'est ça qui est établi par nos façons de penser, par nos façons de parler, par nos façons d'agir, les patterns ou bien les chemins usés. Et le fameux point bleu, c'est justement d'être là afin de voir ce qui est en train de se passer. Ok, donc la vue juste, c'est regarder comment on se nourrit pour comprendre comment on est devenu ce qu'on est et aussi pour pouvoir décider quels sont les aliments que nous désirons continuer ou bien améliorer ou couper. Donc avoir un régime d'alimentation. Et le régime d'alimentation, il est bien illustré ou bien exprimé dans les 5 entraînements à la pleine conscience. Lorsque nous sommes dans la pleine conscience, les autres suivent. Donc il y a l'énergie. il y a la joie, il y a l'aisance, il y a toutes ces choses-là qui sont là comme des by-products. Lorsqu'on pratique la pleine conscience, ces choses-là viennent, ou bien comme des supports, ou bien comme des résultats. Nous sommes pleinement conscients, l'énergie est là, parce qu'on n'est pas éparpillé. Alors donc, il y a plus d'énergie, on voit aussi plus clair. On voit comment, qu'est-ce qui nous anime, toutes ces choses-là, dont l'énergie, la joie, l'aisance, proviennent de la pratique du premier, la pleine conscience. L'investigation discriminative, c'est la concentration. La concentration qui est supportée par la joie, par l'aisance, ou bien qui. Et c'est le sixième. Et le sixième, c'est celui qui apporte la compréhension. La compréhension, l'équanimité, le lâcher-prise, le nirvana, l'ultime, l'éveil. Avant de parvenir à l'ultime, je vous avais parlé de petits bonheurs et de petites souffrances. Avec les cinq entraînements à la pleine conscience, nous pouvons. Parce que nous sommes dans l'historique. Et une chance que nous sommes encore dans l'historique. Parce que dans l'historique, on est encore vivant et on peut encore respirer. On peut encore respirer, on peut encore marcher, on peut encore faire bien des choses. Et ça s'appelle le karma. Et le karma, c'est ce que notre ami à la cloche nous rappelle. Corps, parole et esprit en parfaite harmonie. Notre corps nous transporte, notre corps nous continue. Nos paroles sont notre marque, nos pensées restent. Et les cinq entraînements qui nous protègent dans nos paroles, nos pensées et nos actions sont ici pour nous permettre de mieux vivre nos souffrances et de pouvoir mieux apprécier nos petits bonheurs. Et lorsque je dis mieux apprécier, c'est être là, les goûter, les savourer, sans s'y accrocher. Faire attention à la source de nos plaisirs, à la source de nos désirs et à ce que nous croyons être un bonheur. Parce que beaucoup de bonheur que nous avons recherché, couru après, nous ont joué beaucoup de tours ou bien nous ont amené. Les mots me manquent. Mais je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Oui. Et lorsque nous sommes ici et que nous travaillons pour pouvoir alléger, adoucir les souffrances, être avec et savourer les petits bonheurs, s'exercer à regarder pour pouvoir voir la nature impermanente et interdépendante de ces choses-là. Nos souffrances sont impermanentes, mais nos souffrances sont aussi interdépendantes de beaucoup de conditions. Nous pouvons voir que nos souffrances ne sont pas individuelles. Nous pouvons voir de la même façon que notre bonheur ne peut pas être individuel. Nous pouvons voir aussi qu'un bonheur n'est jamais et toujours impermanent et va finir par se transformer. Mais si nous pouvons vivre chaque jour avec cette présence, avec cette attention, avec dans la pleine conscience, nous allons aiguiser notre vision. Et ce qui a commencé par une petite vision, le petit right view, va devenir de plus en plus clair. Et c'est pour ça que la pratique que nous faisons, c'est une pratique de chaque instant. Le Bouddha a répondu à un brahman qui lui a posé la question, « Qu'est-ce que vous faites dans votre journée ?» Et le Bouddha a répondu, « On se réveille en souriant, on marche, on fait notre toilette, on va demander l'aumône, on va mendier notre nourriture, on revient, on mange, on se lave, etc. » Et le brahman répond, « Oui, mais tout le monde fait ça. Qu'est-ce que vous faites de particulier, de spécial ?» Il dit, « Ben, on fait la même chose que tout le monde, sauf que quand je marche, je sais que je marche. Quand je parle, je sais que je parle, etc. » Alors, la réponse, c'est que je suis en train de vivre dans la pleine conscience. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de vivre de la même façon. C'est-à-dire, vivre, ça s'appelle mindful living, une vie en pleine conscience. Une vie en pleine conscience qui nous permet de toujours être présent avec ce qui est en train de se passer en nous et autour de nous. En nous, on se rappelle que c'est merveilleux d'avoir encore ce corps, qu'on peut encore marcher, mais qu'il faut faire attention. Parce qu'un jour, demain, après-demain, bientôt, on ne pourra plus marcher. Alors les pas qui nous restent à faire, pourquoi ne pas les faire dans l'aisance et en savourant le fait de pouvoir marcher? Parce que ça va passer. Et lorsque ça arrivera, pouvoir se dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je n'attends plus rien, je n'espère plus rien parce que j'ai déjà tout fait ce que j'ai eu à faire. Et c'est ce que Thanyi Khan a dit il y a déjà 20 ans. Quand il a été interviewé par un reporter qui lui a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que vous désirez? Il dit, non, rien. Tout ce que j'avais à faire. Il n'y a plus rien que j'espère, il n'y a plus rien que j'attends. Il a pu le dire parce que c'est ce qu'il a fait durant sa vie, des regrets du passé. C'est parce qu'on n'a pas su vivre dans le présent qu'on le passé. Vivre dans le présent, dans le passé. Parce que dans le passé, on n'a pas su vivre dans le présent. Et on le regrette maintenant. Et si maintenant nous ne le vivons pas, nous allons le regretter demain. Donc la leçon, c'est de vivre chaque instant. Parce que chaque instant est le seul qui nous est donné, est le seul où nous sommes vivants. Non, ou le seul où nous pouvons nous souvenir que nous sommes vivants. Parce que nous sommes encore vivants, mais si nous ne nous en souvenons pas, il n'y a aucune différence entre étant vivant et étant mort. Et pourquoi est-ce qu'on veut être mort tout de suite alors que ça va de toute façon arriver? Et lorsque ça va arriver, ça va être un moment souffrant. Peut-être pas pour nous parce qu'on ne le saura plus, mais pour beaucoup de ceux qu'on aime. L'instant qui nous est donné, c'est le seul où nous pouvons aussi réaliser ce que nous pouvons faire. Et lorsque je parle à mes amis, atelier de travail, là je leur mentionne, vous savez, vous êtes ici sur Terre avec une mission. Nous avons toute une mission à remplir. Et celui qui nous a mis ici, dans cette position, à cet endroit, à ce moment, nous a donné aussi beaucoup de ressources. Nous recevons tout cela et nous devons en faire quelque chose. Et nous avons ce moment pour le faire. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que demain nous puissions dire comme Thaï, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Et je n'espère plus rien, je n'attends plus rien. Et il le dit à chaque jour. Et à chaque jour, il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, selon les, dans les conditions où il est. Et il a toujours fait cela à chaque jour. Et c'est cela, la vie en pleine conscience. Je sais que j'ai commencé par enseigner, j'ai commencé par pratiquer avec. Ou bien on m'a appris lâcher prise. Et lâcher prise, j'avais compris qu'il fallait tout arrêter. Et quelques-uns de mes amis ont pensé la même chose. Et peut-être qu'on peut le faire, ou bien peut-être qu'on doit le faire. Mais le lâcher prise, ou bien le septième, ne veut pas dire cela. Le lâcher prise, c'est accepter les choses qui sont là, telles que c'est. Ça ne veut pas dire tout arrêter. Lâcher prise ne veut pas dire démissionner. Lâcher prise ne veut pas dire laisser tomber. Lâcher prise va juste dire, tu fais ce que tu peux, sans t'attacher au résultat ou à ce qui peut suivre. Lorsque j'aurai tout fait ce que je pouvais faire et ce que je devais faire, et que ça n'arrive pas comme je le veux, c'est correct. Parce que j'ai déjà tout fait ce que je voulais, ce que je pouvais faire, et je fais d'autres choses. Et lorsque les conditions seront en place, ça va se manifester et ça va se faire. Et alors, lorsque j'ai parlé, lorsque je parle avec mes amis, comme je l'ai fait ce matin lors du petit déjeuner qu'on a eu ensemble, j'ai une vision. Et je sais que ça prend des conditions pour que ça se réalise. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 50 ans. Ça prendra le temps que ça devra. Et je serai content parce que j'aurai fait, j'aurai dit, j'aurai exposé ce que je devais faire ce matin. Et je l'ai fait. Si ça se réalise, je vais être très heureux. Si ça ne peut pas se réaliser, je sais que les conditions ne sont pas encore prêtes, mais qu'elles le seront. Il me reste très peu de temps et je ne sais pas comment ou bien avec quoi vous laisser repartir. Alors, le message le plus important, la maison en feu. Le temps nous est compté et le temps c'est une ressource qui va passer et qui ne revient jamais. Ce qui nous attend, c'est notre dernière destination, ça va être 6 pieds sous terre. Le temps qui nous reste, il vous en reste beaucoup plus que moi. Je vous le souhaite, c'est pas sûr. Ce n'est pas une certitude, n'est-ce pas? Mais je vous le souhaite. Comment faire de chacune de nos journées quand nous nous levons jusqu'à ce que nous nous couchions le soir. Faire de chaque journée ce que mon maître appelle le jour du jour. Ce n'est pas la journée des mères, c'est le mois pour le cancer du sein. Mais on n'a pas besoin d'attendre une certaine journée pour le célébrer. Chaque jour est un jour de célébration. Je me lève, je m'éveille en souriant. Chaque matin pour dire « Yes, ceci est le jour du jour. Le jour du jour où je peux encore me réveiller. Le jour du jour où je m'éveille. Le jour du jour où je vais faire le mieux que je peux. Et il y a tellement de choses qui m'attendent et que je peux faire et qui sont merveilleuses. Chaque jour, je m'éveille en souriant. Je lis un entraînement. Et je me souviens que chaque instant qui m'est donné en m'éveillant, c'est comme ce sac de joyaux que je reçois à chaque matin. Et dans ce sac, il y a un joyau pour chaque minute ou pour chaque respiration. Et si je peux être avec chacun de ces joyaux durant ma journée, je pourrais à la fin de la journée dire « Yes, j'ai mérité cette journée, j'ai mérité ce sac qui m'est donné et que je suis en train de savourer à chaque fois. » Et il y a un livre merveilleux, c'est qui l'a, c'est qui ne l'a pas. Et dans ce livre, il y a 50 petits poèmes qui peuvent nous accompagner dans notre vie de tous les jours, pour chaque action que nous prenons. Pour nous rappeler de nous arrêter, pour être avec ce que nous sommes en train de faire et de savourer pleinement l'action qui va suivre. Il y en a un pour ouvrir le robinet. J'ouvre mon robinet et je... C'est merveilleux. Et vous savez, peut-être que vous ne l'avez jamais connu, mais dans mon temps, l'eau que j'avais pour me brosser les dents, c'était quelqu'un qui devait aller comme 2-3 kilomètres en bas, être dans un puits et le sortir comme ça. Ah, ok, vous ne savez même pas ce que c'est. Okay. Mais c'est un balancier avec un pot en avant, un pot en arrière. Et puis, vous savez, une petite femme comme ça. Oups, ok, un petit homme, non, ok, une petite personne. Mais là, deux gros trucs et puis... pouvaient les porter et faire de très longues distances. Et là, je les observe et je vois comment. Je lève, mais c'est le mouvement qui fait. Alors, lorsque ça fait, l'agneau, et c'est ça qui les porte et qui peut faire de très longues distances quand même. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir le robinet et l'eau coule. Alors, c'est un miracle. Et ce genre de miracle, on est entouré de cela. Qu'est-ce que c'était à cette place il y a 100 ans, là où nous sommes assis? Il pleut dehors, mais on est au sec. N'est-ce pas merveilleux? Être assis ici, pouvoir être assis ici. C'est le résultat de beaucoup de travail. Et c'est une grâce que de pouvoir le recevoir. Et pouvoir être là et le reconnaître, il y a beaucoup de gratitude qui naît en nous. Et ça alimente et ça grandit le sentiment de gratitude à l'intérieur de nous. Et chaque instant de notre journée, si nous sommes conscients, nous pouvons être en contact avec toutes ces merveilles qui sont en train de se passer. En parlant d'alimentation, vous ne pouvez pas dire que vous avez écouté John Hui si vous n'êtes pas au courant de l'histoire de la petite tomate. Qui connaît l'histoire de la petite tomate? Mais dans une retraite, j'ai pratiqué ce que nous vous invitons à pratiquer, c'est-à-dire les repas en pleine conscience. Et on s'assoit, on récite les 5 contemplations. Cette nourriture, don du ciel, et de beaucoup de travail, de toutes les espèces, et de beaucoup d'amour. Et j'étais là, et tout seul, et j'étais en conversation avec une petite tomate, parce qu'elle m'a fait signe. Et c'était une petite tomate cerise, toute rouge, brillante, luisante. Et je l'ai vue, et je lui ai dit, « Hello, petite tomate. Hello, Chenvi, comment ça va ?» Et on a eu une conversation intime. C'était trop intime. Elle m'a dit, tu sais, Jean-Louis, je suis tellement content de te voir, je t'ai attendu toute ma vie. Enfin. Et là, j'ai regardé la tomate et je me suis mis à sa place. Et je me suis imaginé être une petite tomate dans une assiette et avoir quelqu'un, un monstre, qui me regardait, il bavait un peu parce qu'il avait faim, et qui me regardait avec des yeux d'envie. Et la suite, là, vous pouvez l'imaginer. Il va prendre un espèce de truc avec des pics, il va me rentrer dedans, il va me soulever, il va me mettre dans une place qui est noire, humide, qui sent. Et puis là, il va me broyer, il va me cracher, il va m'avaler, puis je vais me retrouver avec d'autres choses qui ne sont pas très... Et je vais poursuivre mon chemin. Mais ce que la tomate m'a dit, c'est que je vais enfin pouvoir faire ce que j'ai attendu toute ma vie, c'est-à-dire remplir ma mission. J'étais né avec la mission de te nourrir. Et je suis là, et je suis en train, à la fin de ma préparation pour me donner entièrement et faire ce que j'ai retenu de cette conversation. C'est une leçon d'amour infini. Et j'ai vu que la tomate avait cette capacité d'amour. Est-ce qu'elle m'aimait assez pour pouvoir se donner entièrement, donner sa vie, me donner sa vie pour pouvoir me soutenir, me nourrir, sans crier, sans avoir peur, sans regret, mais en souriant. Et je ne peux imaginer un plus bel amour que cela. Et pour moi, c'est l'amour du Bodhisattva. C'est l'éveil. Parce que la tomate sait qu'elle ne va pas mourir là, mais qu'elle va se poursuivre, elle va se continuer en moi. Parce qu'elle comprend. Elle comprend l'inter-être. Elle ne se voit pas comme une quelque chose de séparé de moi. Elle sait qu'elle va rentrer, devenir une partie de moi et juste continuer son merveilleux chemin avec moi. Et lorsque je l'apprends, lorsque je reçois cet amour, je dois me souvenir de tout ce qui m'a nourri et de tout ce qui m'a mis ici. Et c'est mon devoir et ma responsabilité de les transporter du mieux que je peux. Et c'est cela que la tomate espère recevoir, c'est que je puisse l'amener dans le meilleur avenir possible, c'est-à-dire en utilisant cette énergie, cette nourriture. Comment on dit? Pour construire notre sauvité, etc. Et puis pour moi, c'est très simple. Pour pouvoir la mériter. La mériter, c'est-à-dire en être conscient et faire du mieux que je peux chaque jour de ma vie. Okay, merci.